Alors, frères et sœurs, nous allons prier d'abord avant d'aborder ce message. Je me mets à la page, à la bonne page sur ma Bible. Seigneur Dieu, Père éternel, je te prie, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de nous instruire par ton Saint-Esprit, de nous éclairer par ta parole. Seigneur, que ce soit toi qui parles et non moi, que ce soit ton esprit qui nous instruise et non mon esprit, Seigneur. Que ton nom soit seul glorifié. Amen. Amen. Donc nous allons poursuivre l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, dont nous avons déjà vu plusieurs chapitres, trois chapitres. Et nous avions fait le troisième chapitre le 24 octobre 2021. Donc, je reprends la suite. Et nous allons d'abord lire donc 1 Pierre 4, du 1 à 19. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, première partie, verset 1, j'intitulerai ça la fin du vieil homme, puisque l'apôtre nous dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » C'est d'abord la pensée, l'état d'esprit qui doit être changé et modifié, puisque la pensée, c'est tout ce qui nous guide et ce qui guide notre vie. Christ a souffert dans la chair. Sachant cela, nous ne pouvons pas penser que nous pourrons, nous, chercher à jouir de la vie, de bien profiter des plaisirs humains et mondains. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureux et que nous devions vivre une vie de souffrance continuelle. Paul dit à Timothée, au chapitre 6, la première, verset 17, « recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Nous pouvons vivre des moments de bonheur simples et sains, loin des lieux de débauche. Les chrétiens ne sont pas appelés à être des masochistes qui se font du mal à eux-mêmes de différentes façons, qui se flagellent, qui font des chemins de croix, qui montent sur les genoux les marches d'escalier de monuments célèbres, sur des chemins de pèlerinage qui ne sont d'ailleurs pas dédiés au Seigneur Jésus. Tout cela ne sert à rien, nous dit Paul, en Colossiens au chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Personne ne peut nous imposer ou vous imposer telle ou telle façon de faire ou de manger ou quel produit acheter, etc., etc. Nous sommes libres. Mais Paul nous indique des limites. En 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et il reprend cette pensée au chapitre 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Il est important de considérer ce qui édifie, ce qui nous élève ou ce qui nous rabaisse et nous ramène à nos habitudes charnelles. Or, nous sommes appelés à laisser le vieil homme derrière nous et à revêtir l'homme nouveau. Lisons pour cela quelques passages en Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et au verset 6 et 7, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Et encore au verset 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » La pensée change. Et cela donc se vérifie en action. Nous sommes appelés à vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair, c'est ce qui était écrit au verset 2. La foi nous amène au baptême, et ensuite, c'est toute une vie réorientée pour suivre la volonté de Dieu. Au verset 7, l'apôtre nous dit « La fin de toutes choses est proche. » Nous devons vivre dans la pensée que le vieil homme est mort, mais aussi que ce monde va disparaître. Ce n'est pas simple pour la jeune génération. Comment entreprendre des études, commencer une carrière dans un monde qui va disparaître? Pourtant, la question se posait de la même façon pour chaque génération. Poursuivre des études, exercer un métier, avoir des enfants et les élever, en gardant à l'esprit que tout pouvait s'arrêter à un moment. En transmettant l'espérance du salut et de la vie éternelle. Dès le début de l'ère chrétienne, les apôtres, comme Pierre ici, ont transmis ce message « La fin de toute chose est proche ». Chaque génération est placée devant cette réalité. C'était le message de Jésus dès le commencement. En Marc 11, nous lisons au verset 15, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et en Hébreux chapitre 4, verset 7, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Des centaines de générations ont entendu cet appel à la repentance, à saisir le salut que Dieu nous offre aujourd'hui. Ce message ne peut pas être changé en raison du temps qui s'est écoulé depuis la première fois où il a été prononcé. Jésus a insisté sur l'urgence de se repentir. Les moqueurs prennent toujours excuse du temps qui passe. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, il est écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. La fin de toute chose est proche. Ce message doit être prêché à chaque génération parce qu'il ne parle pas seulement du retour de Christ et du jugement qui va frapper le monde, mais il parle de chaque vie individuelle. Une belle maison peut disparaître par un incendie, un tremblement de terre ou l'éruption d'un volcan ou une coulée de boue. Nous avons eu ces exemples dans les actualités ces derniers temps. Une belle fortune peut disparaître suite à un krach boursier, ou à une grosse escroquerie. Une belle santé peut disparaître à cause d'un petit virus. Une vie tranquille peut être ébranlée par les velléités guerrières d'un despote. La fin de toute chose est proche. Nous pouvons jouir de toute chose en sachant bien que pour chacun d'entre nous, tout peut disparaître d'un seul coup. Comment vivre alors ? Vivre selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. L'apôtre nous donne quelques exemples des versets 7 au verset 11. Tout d'abord, au verset 7, il nous dit « Une vie sage et sobre ». Sagesse et sobriété, le contraire de ce que nous propose le monde. Ouvrez un journal publicitaire, on vous fait miroiter le plaisir de posséder, la convoitise, le plus gros, le plus grand, le plus beau, ou le plus bling-bling, ou le plus toc aussi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Combien de bricoles qui sont jetées à la benne dans les une ou deux années qui suivent. Paul dit à Timothée, encore au chapitre 6, versets 6 et 9, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La sobriété, c'est aussi une vie calme, avec des occupations saines et tranquilles, loin des excès et de l'agitation du monde qui nous empêche de penser à la prière et d'y passer du temps. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 7 et 8, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Avant tout, au verset 8, la première place, à la première place, avant toute chose, se trouve l'amour. L'amour pour les autres. Voilà comment nous devons vivre, en aimant les autres. Pas un amour fin ou factice, mais un amour ardent. L'apôtre le disait déjà au chapitre 1, verset 22, « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Pierre ajoute une précision dans ce chapitre 4. « L'amour couvre une multitude de péchés. » L'amour couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que l'amour que nous montrons aux autres permettrait de contrebalancer nos péchés et nos fautes personnelles? Ce serait une manière de nous racheter. On serait racheté par notre grande bonté. Ce n'est pas notre amour qui nous rachète, mais l'amour manifesté pour nous à la croix par le Christ. C'est le sang de Christ qui nous purifie du péché. Ce verset se trouve dans les Proverbes, chapitre 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Pour qu'il n'y ait pas de querelles, celui qui veut pratiquer l'amour va couvrir les fautes des autres. Il va éviter de mettre le doigt dessus ou aller les raconter. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. L'amour ne va pas couvrir nos fautes et nous excuser, nous, mais il va couvrir les fautes des autres pour avancer sur le chemin de la paix. Il ne s'agit pas là de compromission. Il ne s'agit pas d'accepter ou de fermer les yeux sur le péché. Couvrir par amour, ce n'est pas fermer les yeux. Le Seigneur nous dit en Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Entre toi et lui seul. On peut oublier malheureusement ce conseil du Seigneur quand on veut régler des difficultés dans la précipitation ou sous l'effet de la pression. Mais cela ne mène à rien de bon. En Luc 17, Jésus nous dit d'abord, prenez garde à vous-même. Et ensuite, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Les versets 9, 10, 11, c'est la suite des conseils de l'apôtre. Un autre conseil pour notre vie, donc, par exemple, exercer l'hospitalité. Et il dit l'hospitalité sans murmure. Ça veut dire de bon cœur, sans y être forcé, sans récriminer, sans critiquer ou faire des reproches aux autres qui ne le feraient pas. Autant ne pas le faire que de le faire sans amour. En Hébreu 13, 2, nous lisons « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Seul Dieu le sait. Bien entendu, le Seigneur connaît les possibilités de chacun. Et au verset 10, ce sont les différentes grâces, ce sont les bienfaits que Dieu nous accorde que nous devons dispenser aux autres. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Au service des autres, au service de l'ensemble, au service de la communauté de croyants que nous formons. Bien entendu, il ne s'agit pas d'exploiter les capacités des autres. On ne peut exiger quoi que ce soit de quiconque. L'apôtre Paul dit à Timothée, car l'Écriture dit, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Service, entraide, ce n'est pas esclavage si on le fait volontairement, librement. Il y a les dons humains, les capacités que nous pouvons mettre au service de l'Église. Mais il y a des dons, des capacités que nous devons apprendre à maîtriser pour les mettre au service de Dieu. Au verset 11, nous parle de la parole. Savoir parler en public de manière claire, de façon claire, sans timidité, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont plus ou moins de facilité pour parler, pour s'exprimer devant les autres. Mais attention, si on a cette facilité de pouvoir parler dans l'Église facilement, mais attention, dans l'Église et en dehors aussi d'ailleurs, veillons sur nos lèvres. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. C'est une responsabilité. Nous ne devons pas parler à la légère ou exprimer des opinions personnelles. Nous annonçons les oracles de Dieu. Nous annonçons ce que Dieu a proclamé, qu'il a annoncé. D'ailleurs, à ce propos, Jacques nous incite à faire preuve de modération dans l'usage de la parole. Au chapitre 3, verset 1, il nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Dans tous les ministères que nous pouvons remplir les uns ou les autres, ce n'est pas sur nos propres forces que nous devons compter, mais sur la force que Dieu communique. Et la gloire ne doit pas nous revenir à nous, mais uniquement à Dieu par Jésus-Christ. Et versets 12 à 16, il nous parle, Pierre revient sur la notion d'épreuve qui était abordée au chapitre 1 et 2. Alors, épreuve étrange, et il nous dit ce n'est pas une chose étrange ou extraordinaire dans la vie d'un chrétien. Notre foi peut être mise à l'épreuve. Et Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » À nous de bien analyser les causes des outrages ou des souffrances infligées, de sorte que cela ne soit pas occasionné en raison de nos mauvaises actions ou mauvaises paroles ou encore de notre volonté d'intervenir dans la vie des autres. Pierre nous dit que nous pouvons nous réjouir si nous souffrons injustement à cause de notre foi et notre obéissance au Christ. Pierre confirme ce qu'il avait dit au chapitre 2, verset 19, « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Pour finir, au verset 17 à 19, c'est le moment où le jugement va commencer. C'est pas grave. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dans ce passage, n'oublions pas que Pierre s'adresse aux Juifs dispersés. Nous l'avons vu au premier chapitre. Pierre s'adresse aux Juifs qui étaient devenus chrétiens, mais qui sont des Juifs. Et pour les Juifs, la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu à Jérusalem. Jésus a parlé de la maison de son Père, que les Juifs en avaient fait une caverne de voleurs, alors que ça devait être une maison de prière. La maison de Dieu pour les Juifs, c'est le temple à Jérusalem. Et à propos du temple, Jésus avait dit en Luc 21:6, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 25, verset 29, nous lisons « Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, c'est-à-dire Jérusalem, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis ? Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. » Donc c'est un avertissement solennel de la part de Pierre à tous ses lecteurs. Si Dieu commence son jugement par le peuple qu'il a appelé son peuple, le peuple d'Israël, son jugement se poursuivra sur tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Et Paul dit aux Romains, au chapitre 11, « Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. » Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Dieu a jugé Jérusalem, a jugé le peuple d'Israël parce qu'ils ont refusé le Messie. Ils ont rejeté le Messie qui s'était présenté à eux, et c'est pour cela qu'ils ont été jugés et qu'il y a eu le jugement commence par la maison de Dieu. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. L'évangile a été annoncé à toutes les nations ensuite. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Cette épître a été écrite aux environs de 65 après Jésus-Christ. En l'an 70, Titus assiège Jérusalem. En 70, Titus assiège Jérusalem. Le temple est incendié. Puis Jérusalem est prise et le temple détruit. 5 ans après cette lettre. Et puissions-nous, frères et sœurs, nous souvenir de tout l'enseignement de l'apôtre. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour et parce que nous qui n'étions pas un peuple, qui étions parmi les païens, tu nous as appelés par ta grâce, Seigneur. Et nous voulons rester dans cette grâce, rester dans ton amour. Seigneur, tiens-nous prêts parce que le jour est proche, le temps est proche. Seigneur, où tu vas juger le monde, garde-nous dans cette confiance en toi, en ton amour, en ta grâce, car rien ne vient de nous. Tout est don et grâce de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.